Africa Radio et nous,
Dieneba Dembélé,
mieux vivre au 21e siècle.
Cette semaine, on avait envie de vous proposer de vous plonger dans l'univers métavers. Alors, qu'est-ce que c'est que le métavers? Vous avez certainement entendu parler justement de cette réalité dite virtuelle. Nous allons en parler avec notre invité du jour, avec qui nous allons échanger aussi autour des enjeux sociétaux et économiques que représente ce métavers, autour de ce métavers. Il s'agit de Bertrand Wolf. Il est expert XR et métavers, conférencier et co-auteur de Former avec la réalité virtuelle, comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage, avec Émilie Gobin-Mignot et Noémie Kampf aux éditions Duno. Bonjour Bertrand Wolf.
Bonjour.
Pour commencer, comment prononcer ce mot en fait? Métavers, métaverse?
C'est une bonne question. Le mot d'origine, il est anglais. Oui. Il vient de méta et universe. Donc méta, universe devient métaverse. Oui. Mais en français, on utilise aussi méta et on dit univers. Donc moi, je préfère dire métavers avec un écrire avec un accent.
Qu'est-ce que réellement le métavers?
Le métavers, c'est comme Internet, sauf qu'au lieu d'être devant Internet, vous êtes dedans, vous êtes immergé. Donc on parle quoi? On parle de mondes virtuels qui seront reliés entre eux. Et c'est l'ensemble de ces mondes virtuels qui forment le métavers et non pas les métavers.
D'accord.
On parle donc de mondes virtuels qui seront reliés entre eux, où vous pourrez passer de l'un à l'autre, donc ils seront interopérables. Et vous serez immergé dans ces mondes réels et vous y sentirez présent. C'est la grande différence avec Internet, où aujourd'hui vous êtes devant Internet, vous consultez Internet sur votre PC ou sur une tablette ou sur un smartphone,
oui.
Mais vous restez au contact avec le monde réel environnant. Là, vous serez plongé dans ces mondes virtuels. Et vous y serez plongé non pas individuellement, mais socialement, collectivement.
Mm-hmm.
Vous pourrez y croiser aujourd'hui quelques dizaines de personnes, demain des milliers ou des millions de personnes, lorsque ce sera techniquement faisable.
Oui.
Et vous pourrez y accomplir à peu près tout ce qu'on peut y faire sur Internet aujourd'hui, et sans doute un peu plus.
Donc on est devant notre écran et on passe finalement à travers, via forcément, on l'imagine, des technologies qui nous permettront d'y accéder. Quelles sont-elles par exemple?
Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle les proto-métavers, c'est des plateformes comme Decentraland, The Sandbox,
pour les citer.
Roblox.
Oui.
Ce sont en fait du jeu vidéo, ce qu'on appelle massivement multiplayer.
D'accord.
Mais c'est de la 3D, c'est de l'image en 3D, mais c'est pas spatialisé. Le vrai métavers sera spatialisé. Comment on y accédera? On y accédera à travers des lunettes de réalité virtuelle.
D'accord.
Ou des lunettes de réalité mixte.
Mmh.
Alors, la réalité virtuelle, c'est occlusif, c'est-à-dire que vous serez coupé de votre environnement réel,
oui,
pour être plongé dans un environnement totalement digital.
D'accord.
Les lunettes de réalité mixte, c'est un environnement inclusif, c'est-à-dire que vous resterez au contact de votre environnement réel, qui se trouvera enrichi, agrémenté, d'éléments numériques, d'éléments digitaux qui viendront s'interposer entre vous et le réel. Donc je parle de lunettes, aujourd'hui on parle de casque, mais on va assez vite basculer sur les lunettes.
D'accord.
Et on prévoit même, on entend même parler bientôt de lentilles. Il y a déjà aujourd'hui des prototypes de lentilles qui permettent de projeter des données numériques sur ces lentilles.
Mmh. On a l'impression de réaliser, de concrétiser un fantasme général. On associe le métavers à Facebook. Effectivement, beaucoup de personnes ont découvert le métavers quand Facebook a annoncé officiellement le changement du nom de son entreprise en Meta. Est-ce que le Facebook, c'est le métavers, ou alors c'est un moyen d'accéder au métavers?
Voilà, ça dépend à qui vous posez la question.
Ouais.
Si vous posez la question à Mark Zuckerberg, il va vous répondre oui. Si vous posez la question à tous les autres grands de la tech, ils vont vous répondre plutôt crevé. Mark Zuckerberg, ça fait déjà de nombreuses années qu'il envisage que son réseau social bascule de la 2D à la 3D.
Mmh.
Ça fait quand même 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il a racheté une société qui s'appelle Oculus.
D'accord.
Qui à l'époque fabriquait un prototype de casque de réalité virtuelle et qui aujourd'hui est devenu le casque de réalité virtuelle le plus vendu au monde. Donc ce passage à la 3D, il l'a en tête depuis longtemps. On sait qu'il y a 4 ans, un rapport à l'époque confidentiel, interne à Facebook, hein, a conclu au fait qu'il fallait qu'il bascule vers le métavers, hein, que 2, ils y soient les premiers, et que 3, ils y soient les plus forts. Donc finalement, c'est ce qu'il a annoncé là avec la création de cette société parent Meta. Mais trois ou quatre jours après cette annonce, Microsoft a réagi en disant pop, nous aussi on est dans le métavers, nous aussi on a un espace digital dans lequel des centaines de milliers, des millions de personnes se retrouvent tous les jours. Ça s'appelle Teams, système de visioconférence d'entreprise. Nous aussi on a des lunettes, des outils qui permettent d'accéder au métavers. Ça s'appelle HoloLens. Et nous aussi, on a une plateforme de développement qui permet de créer des mondes en 3D qui s'appelle Mesh. 3 ou 4 jours après, Roblox, qui est une plateforme de jeu qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est d'abord une plateforme sociale, hein, le patron de Roblox a réagi en disant « Regardez le compte-rendu que j'ai entre les mains, là, il date d'il y a 17 ans et vous voyez qu'il y a déjà le mot métavers là-dedans.
Oui. »
Donc nous aussi, on est engagés là-dedans. En fait, c'est pas du tout un fantasme solitaire de Mark Zuckerberg, c'est une évolution, une itération nouvelle d'Internet vers laquelle convergent toutes les grandes techs du moment, mais aussi la 5G qui va être nécessaire pour descendre les contenus, mais aussi la puissance de calcul qui va être nécessaire. Ce qui veut dire que le cloud est très intéressé par le métavers et est intéressé à son développement, ainsi que l'intelligence artificielle qui va être très très mobilisée. Pour rappel, l'ordinateur le plus puissant au monde en cours de construction et qui va être 4 à 5 fois plus puissant que celui qui est champion du monde depuis 3 ans, qui est un japonais. Ce nouvel ordinateur, donc opérationnel a priori à la fin de l'année, c'est Facebook qui le construit. Hein, et il le construit pour de l'intelligence artificielle.
Okay.
Et puis dernière grande tech qui est fortement intéressée par le développement du métavers, c'est la blockchain. C'est tous les acteurs de la blockchain qui, à travers un peu la crypto-monnaie, beaucoup les NFT et énormément les smart contracts, ce qu'on appelle les smart contracts, qui permettent de sécuriser des transactions, voient dans le métavers un potentiel d'activité très important.
Vous êtes co-auteur, Bertrand Wolff, de l'ouvrage « Former avec la réalité virtuelle, comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage ». Pourquoi ce livre? Comment vous le résumeriez?
On s'est rendu compte que la réalité virtuelle avait très rapidement révéler son efficacité sur pas mal de sujets liés à de la formation, liés globalement aux ressources humaines, c'est-à-dire sur du recrutement, de l'évaluation, de l'accueil de nouveaux collaborateurs et de nouvelles collaboratrices, sur de la formation à des gestes métiers ou à ce qu'on appelle des soft skills, des compétences douces, et également sur de la sensibilisation à des sujets qui sont importants, hein, la sensibilisation au handicap, au sexisme, au harcèlement. Et autant la technologie a avancé vite et les contenus immersifs, les briques immersives sont devenus efficaces, autant on voyait pas beaucoup, pas assez à notre goût, les gens de la formation, côté organisme de formation, côté entreprise, venir nous questionner sur le sujet. C'est pour ça qu'on a fait ce livre, simplement. C'est pour pouvoir évangéliser, je dirais, au-delà de nos murs, et donner à entrevoir le potentiel de ces outils, enfin de ces médias, en fait, ce sont des médias, et aussi de démystifier un peu, de dire ça remplace pas ni tout ce qui existe en matière de formation, ni les formateurs, surtout pas. C'est juste un nouvel outil, un outil de plus à disposition des formateurs.
Une étude nous apprend qu'une personne sur 4 devrait impérativement être sur le métavers au moins 1 heure par jour d'ici à 2026. C'est le cabinet d'analyse Gartner. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Alors qu'on sait que 75% des Français, encore aujourd'hui, ont des craintes sur le métavers.
Oui, alors c'est difficile d'avoir des certitudes, d'avoir des craintes sur un truc qui n'existe pas encore. Justement, parce que ce n'est pas une révolution, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va brutalement remplacer un usage par un autre. Mais c'est un glissement progressif qui est lié à plein de facteurs. Le premier, c'est le facteur des progrès de l'informatique, de se dire que demain, les lunettes que je porte sur le nez pendant que je réponds à votre interview seront plus puissantes que l'ordinateur avec lequel je travaillais il y a 10 ans. Il y a une autre évolution aussi liée à cette technologie, c'est le confort d'utilisation. Plus le temps passe, plus ils sont simples, faciles et agréables à utiliser. Et c'est plus agréable de porter des lunettes sur le nez que d'utiliser et de commander à la voix, par exemple, que d'utiliser un clavier sur un PC. C'est pas une technologie issue d'une boîte quelque part dans son coin. C'est vraiment tout le monde y a intérêt.
D'accord.
Donc, est-ce qu'on va tous y aller dans le métavers? Ouais, j'en suis certain, mais se poser la question aujourd'hui, je pense que c'est à peu près comme se demander si, il y a 25 ans, on allait être 2 milliards de personnes à utiliser Facebook dans le monde. Il y a 25 ans, on n'avait même pas idée qu'une boîte comme Facebook puisse exister. Donc, par rapport au métavers, allez, on va dire qu'on est en 1997 aujourd'hui, sur Internet.
Pourquoi devrait-on essayer le métavers? Qu'est-ce qu'on pourra y trouver? Qu'est-ce qu'on pourra y faire? On a compris que le métavers, ça reproduit le réel dans le monde virtuel, donc que toutes les possibilités concrètes que nous avons, nous pourrons les retrouver dans ce métavers. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous?
Alors, ça va pouvoir, comme vous le dites, reproduire dans le monde virtuel tout ce qui existe dans le monde réel.
Mmh.
Ce qui en soi ne présente aucun intérêt, aucun.
Okay.
Autant rester dans le monde réel. Donc, ce qui est excitant dans le métavers, c'est tout ce qui n'existe pas dans le monde réel et qu'on va pouvoir faire dans le monde virtuel.
Oui.
Donc, effectivement, voyager, oui, on imagine qu'on peut aller d'un espace virtuel à un autre facilement sans prendre le train ou sans prendre l'avion.
Mmh.
Donc, c'est le voyage dans l'espace. Mais on va pouvoir facilement voyager dans le temps. Et ça, c'est pas facile hein, aujourd'hui dans le monde réel. Mais on peut facilement voyager dans le temps, c'est-à-dire aller visiter des lieux tels qu'ils étaient il y a 100 ans ou il y a 500 ans ou il y a 500 000 ans.
Ouais.
Ce qui est fascinant, c'est que pour la première fois depuis qu'on est des animaux sur Terre, l'espace n'est plus une contrainte. L'espace physique n'est plus une contrainte. Si je prends l'exemple simple de l'école, on a à peu près tous la même vision de ce qu'est une salle de classe, une salle de cours,
oui.
plus ou moins sophistiquée, mais c'est un espace relativement réduit où on est assis les uns à côté des autres. Et puis, à un bout de la pièce, il y a quelqu'un qui est debout ou qui est assis à son bureau et puis qui raconte ce qui se passe. Demain, cette même personne qui est assise debout à son bureau et qui raconte ce qui se passe pourra décider que s'il parle de géographie, il nous emmènera dans le lieu dont il ou elle est en train de parler.
Oui.
S'il nous parle d'histoire, il nous emmènera là où ça s'est passé et au moment où ça se passe.
Oui.
Si c'est un cours de langue, il pourra nous emmener dans le pays de là où on parle de cette langue.
Mm-hmm.
Si c'est un cours de maths, il pourra créer une salle spéciale pour un cours de mathématiques. Et pour l'algèbre ou la géométrie, ce sera pas la même salle. Si c'est un cours de créativité, on le fera en plein désert, ou alors on le fera dans une pièce où à gauche par la fenêtre on verra Khartoum, à droite par la fenêtre on verra Kuala Lumpur,
oui.
À gauche par la fenêtre on verra Paris et puis il y aura un toit ou il n'y aura pas de toit, peu importe.
Les possibilités sont indénombrables.
Oui, la technologie, c'est pour ça que c'est assez fascinant. La technologie n'est plus la limite, c'est vraiment l'imagination. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au métavers. Alors, qu'est-ce qui donnera envie d'y aller, c'est tout ça, mais il faut s'y intéresser dès aujourd'hui pour essayer de comprendre, parce que rarement les gens qui conçoivent les technologies les livrent avec le mode d'emploi de tous les cas d'usage des technologies.
En dehors de ces lunettes et à terme les lentilles pour pouvoir accéder au métavers, est-ce que c'est un coût d'avoir un espace d'être dans le métavers?
Aujourd'hui, il y a des applications du type proto-métavers effectivement, qui vous vendent du terrain. Donc vous devez payer, ça se paye avec la crypto-monnaie de l'opérateur.
Oui.
D'autres applications qui ont un modèle économique différent et qui vous offrent la possibilité pour l'instant d'accéder gratuitement.
D'accord.
Meta ou Facebook a un modèle économique de gratuité. On retrouvera dans le métavers à peu près tous les modèles économiques qu'on trouve aujourd'hui sur Internet.
Et du coup, même si vous avez un petit peu répondu à cette question, est-ce que vous pensez que le métavers est aussi un moyen de rompre avec les inégalités?
Je vais pouvoir étudier sur n'importe quel campus du
oui.
monde. On ne me demandera plus où j'ai fait mes études, ce qu'on demande depuis toujours, t'as fait où tes études? Mais non, on me demandera les contenus de quelle école j'ai utilisé. On peut imaginer la création de supra-écoles qui mêleront les cours des meilleurs facs, des meilleures universités, des meilleures écoles du monde, et auxquelles j'accéderai sans traverser le monde, justement, sans quitter chez moi. Donc, d'une certaine façon, oui, ça peut contribuer à réduire les inégalités sociales. Je pense que la fracture, elle sera beaucoup plus entre les gens qui y sont dans le métavers et les gens qui n'y sont pas.
Ouais.
Ça va s'accentuer entre les gens qui passeront beaucoup de temps et qui en tireront profit, j'espère, en tout cas partie, mm-hmm. et puis ceux qui n'oseront pas, ne voudront pas ou ne pourront pas y aller.
Il y a une école à Paris qui va ouvrir donc à la rentrée 2022 avec déjà plus de 50 élèves inscrits sur les listes. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Stanford l'a déjà fait l'année dernière. Après que les écoles se précipitent sur le sujet, c'est absolument normal.
Oui.
C'est un sujet d'évolution digitale aujourd'hui. Et il va falloir former des gens pour maîtriser la conception et l'utilisation de ces nouveaux espaces digitaux. Voilà, donc effectivement, cette école à laquelle vous faites référence a lancé son projet la semaine dernière, mais
oui.
Personnellement, je suis au courant d'au moins une demi-douzaine de projets similaires qui seront actifs pour la rentrée 2022.
Marketing virtuel, expert juridique notamment sur le métavers, NFT designer, data architecte, designer 3D, voilà le genre de métiers qui sont à l'apprentissage au sein donc de cet institut qui ouvre ses portes à Paris. Les entreprises, elles se bousculent aussi beaucoup pour construire leur monde virtuel. Est-ce que vous avez connaissance du nombre d'entreprises qui souhaitent déjà, en France en tout cas, créer leur espace dans le métavers ?
Non, je n'ai pas ce chiffre précisément. Non, il y a des études qui chiffrent le potentiel du métavers à échéance 4 ou 5 ans, non pas en milliards, mais en trilliards de dollars.
Ouais.
Donc on parle de sommes astronomiques. On a même du mal à réaliser. On mesure l'engouement pour le métavers. C'est juste à notre petite échelle le nombre de demandes entrantes d'entreprises qui veulent comprendre et mettre un début de réalité sur le métavers a été multiplié par presque 10 en quatre mois. Le nombre de réalisations est encore limité, hein, parce que pour l'instant, on est dans une compréhension, une prise de conscience des enjeux.
Oui.
Quelques entreprises ont commencé à acheter des terrains sur des plateformes comme comme le groupe Casino ou le groupe Carrefour.
Oui.
À l'international, les entreprises ont déjà proposé des opérations qui ont eu un peu de retentissement, comme Gucci par exemple, qui a fêté ses 100 ans sur une plateforme qui est Roblox en mai l'année dernière, hein, donc ça fait presque un an.
Oui.
Ils ont recréé les jardins qu'ils ont à Florence, en Italie, pour les faire visiter, et ils ont eu 20 millions de visiteurs en 15 jours.
Mm-hmm.
Ou plus récemment, la chaîne de restauration Chipotle aux États-Unis, donc restauration mexicaine, qui tous les ans à Halloween fait une opération où il distribue des bons d'achat pour des burritos gratuits.
Mm-hmm.
Cette année, ils les ont distribués sur le métavers, sur une plateforme en tout cas, et pas uniquement dans leur point de vente comme d'habitude.
Mm.
Beaucoup plus récemment, McDo, là encore, restauration rapide, a fait une opération pour le Nouvel An chinois, où ils avaient recréé un espace qui était disponible dans plusieurs mondes virtuels. Et en s'inspirant de ce qu'on pouvait voir dans les points de vente en termes de graphisme, hein, ça fait travailler un artiste, ils ont créé des espaces dans lesquels on pouvait se retrouver, hein, soit entre amis, soit avec des inconnus. C'était visuellement très très réussi.
Oui.
Ou encore plus récemment, pour la journée des droits de la femme, donc c'était la société Mattel, les poupées Barbie en l'occurrence, ont sponsorisé une galerie d'un collectif artistique qui s'appelle Boss Beauties, qui est spécialisé dans les portraits de femmes puissantes ou de femmes inspirantes.
Mmh.
Et donc vous pouvez visiter cette galerie. Les œuvres d'art que vous y voyez sont des œuvres d'art NFT, et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, acquérir avec votre crypto-monnaie, vous pouvez acquérir ces œuvres d'art.
Incroyable. J'allais vous demander quels sont les secteurs d'activité qui profiteront le plus du métavers, mais finalement, tous les secteurs ont leur place et toutes les professions également. Vous avez cité la restauration rapide, l'événementiel. J'imagine que les règles des entreprises dans le métavers sont différentes que dans la réalité.
Les règles des entreprises ont changé, mais elles vont changer parce que les comportements des consommateurs ou des partenaires ou des fournisseurs ou des prestataires vont changer. Et c'est ça qui va être passionnant à suivre. Et c'est ça qui, pour les jeunes gens, va être passionnant à définir, en fait, à comprendre, à apprendre et à définir.
Quelles recommandations vous feriez aux éditeurs qui sont très intéressés et qui ont envie d'entreprendre dans cette réalité virtuelle?
Je leur dirais, allez-y, just do it, comme dit Marc, non, total, non, mais tout le monde a reconnu. Aujourd'hui, bon, il y a le coût d'un casque de réalité virtuelle. C'est pas encore donné, mais souvent, c'est moins cher que les smartphones les plus sophistiqués. Oui. Et ensuite, on peut accéder à des plateformes virtuelles, de monde virtuel, qui, pour certaines, sont gratuites. Et on peut commencer à y passer un peu de temps pour voir ce qui s'y passe, pour voir ce que d'autres font. Et puis, soi-même, commencer à proposer de construire des espaces ou d'utiliser des espaces qui existent et de les customiser, entre guillemets, hein, de les décorer un peu à son goût, oui, et de proposer des événements. Et c'est la meilleure façon, je crois, d'inventer des usages soi-même, mm-hmm, et non pas d'attendre que d'autres inventent des usages qui correspondent à ce que vous aimez dans la vie ou à ce que vous faites à votre boulot ou dans votre métier. Donc, allez-y, mettez la main à la pâte.
Vous avez entendu, chers auditeurs. Dernière question pour vous, Bertrand Wolf. Alors, on sait que le métavers consomme énormément d'énergie. Comment on peut être cohérent avec une démarche éco-responsable et sa présence dans le métavers?
C'est une super question. Et j'aimerais bien avoir une réponse toute simple. Mais il va falloir commencer par essayer de fixer des règles ou de faire des études. Plutôt faire d'abord une étude. Mmh. Qui permettent d'envisager d'un côté la consommation énergétique qui va être nécessaire et croissante pour avoir des outils de plus en plus puissants pour faire du calcul qui seront hébergés dans des fermes de serveurs. Et puis d'autre part, essayer de mesurer un truc simple, hein, c'est le nombre de déplacements qui se réduit quand on utilise le métavers.
Merci Bertrand Wolf, expert XR et métavers, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous êtes également conférencier et surtout co-auteur de l'ouvrage « Former avec la réalité virtuelle, comment les techniques immersives bouleversent l'apprentissage » avec Milly Gobin-Mignot et également Noémie Kampf. Et cet ouvrage paraît aux éditions Duno. À bientôt.